Panorama Info, un regard chrétien sur le monde et sur l'Église. Chers amis, bienvenue pour notre dossier Panorama Info. Il y a pratiquement un quart de siècle, le 6 février 1981 en effet, disparaissait Marthe Robin. Cette femme si humble, cette mystique d'exception, dont certains grands esprits, chrétiens ou non, ont pu dire « Marthe Robin, la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée ». Sa cause de béatification est en cours. Un dossier très dense de 17 000 pages a été récemment transmis à Rome par l'évêque de Valence. Je vous propose dans cette émission Panorama Info de faire rapidement le point sur ce procès de béatification, mais aussi, bien entendu, d'évoquer rapidement la vie et le message de Marthe.
Chers auditeurs, bien sûr, vous avez reconnu cette voix qui nous a accompagnés depuis les débuts de cette radio, c'était la voix de Jacques. Nous sommes ici aujourd'hui avec Michel pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce que Jacques nous a laissé, nous a donné comme témoignage, comme service aussi pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons son entrée au ciel il y a un an. Et c'est vrai, nous sommes tous encore émus pour cette séparation, mais en même temps aussi dans la joie de savoir que se sont réalisées pour lui, nous pensons, les paroles que Monseigneur Riocru, évêque de Pontoise, me disait lorsque je lui annonçais la mort de Jacques. Il m'a cité ces Matthieu en me disant « Viens, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître ». Nous sommes là encore aujourd'hui pour rendre grâce au Seigneur et à Jacques pour avoir été un témoin de l'Évangile, un témoin de Dieu. Nous avons écouté sa voix qui nous parlait de Marthe Robin. Marthe Robin a marqué énormément sa vie de foi, sa vie d'homme. Et pour ça, nous avons voulu commencer avec ce petit extrait d'une vieille émission proposée par Jacques. Je laisse la parole maintenant à Michel, qui va nous donner un petit peu une image de ce qu'était Jacques. Qui était Jacques, Michel?
Merci de me donner la parole. Je vais simplement donner quelques repères biographiques qui permettent de mieux connaître Jacques. Il est né le 9 mai 1928 à Ajaccio. Il a fait son droit à Aix-en-Provence et il a obtenu le grade de docteur en droit et le prix de la thèse. Ensuite, il a démarré sa carrière comme avocat stagiaire à Marseille entre 48 et 52. Et après une période de service militaire et quelques emplois dans le secteur privé, il sera reçu en 1956 au concours pour le recrutement d'élèves administrateurs des services civils d'Algérie et il occupera donc le poste d'administrateur adjoint. La période en Algérie sera une période évidemment très importante, étant donné donc la tragédie qui s'y joue à cette époque. Ses fonctions prendront fin le 8 novembre 1961. En effet, Jacques Damiani était l'objet de menaces très graves et donc il a fallu prévoir son retour d'urgence à Paris. En mai 62, le gouvernement provisoire algérien veut confier à Jacques un poste de sous-préfet en Algérie. Il s'agit pour lui d'une promotion extrêmement rapide, mais Jacques refuse ce poste en mettant en avant son souci de s'occuper désormais dignement de sa famille. Ensuite, Jacques sera nommé en 1970 en qualité de directeur du centre hospitalier de Bastia. Il sera même promu en tête du tableau d'avancement en 1992.
Et voilà une petite excursus de ce qui a été la vie, on peut dire même professionnelle de Jacques, mais déjà nous avons entendu aussi ses choix prioritaires pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants qui voulaient mettre à la première place. Nous allons faire une petite pause musicale avant aussi de parler surtout du temps que Jacques, comment Jacques a vécu sa retraite. Ces quelques notes du piano nous rappellent l'amour de Jacques pour les pianos, pour les gospel, pour les blues. C'est encore vraiment cette beauté de voir la musique même dans son cœur, et toujours aussi pour même être joyeux. Alors, cher Michel, je sais que tu as eu l'occasion de rencontrer dernièrement aussi quelques personnes qui ont rencontré Jacques et qui nous ont laissé un témoignage. Tu peux nous dire quelques mots de ces personnes que nous voulons maintenant écouter, qui ont rencontré Jacques et qui nous laissent une parole sur Jacques.
Oui, ces personnes qui sont des religieux ont tous été touchés par la mort de Jacques et on ressent encore leur émotion à travers les quelques témoignages. Et témoignages vraiment d'un homme qui était chrétien, qui était engagé pour le service de l'Église et quelqu'un aussi qui aimait sa famille. Il était marié, il était père de 3 enfants, il avait des petits-enfants et il avait le grand souci aussi de transmettre la foi à ses petits-enfants.
Nous voulons d'abord alors écouter un témoignage. Les premiers témoignages, nous voulons les prendre par le Père Vincent. Le Père Vincent qui a été au début de la création de cette radio et qui a trouvé en Jacques un des plus valeureux, on peut dire, collaborateurs depuis le début et qui a encouragé énormément aussi la création de la radio et qui a donné beaucoup de temps après sa retraite pour ses services. Michel a interviewé le Père Vincent. Nous l'écoutons.
Père Vincent, merci de partager quelques moments avec nous pour évoquer la mémoire de Jacques. Je sais qu'il y avait une grande complicité entre vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des premières rencontres avec Jacques et de ce que vous avez fait ensemble?
Écoutez, moi, j'ai connu Jacques, on dirait par hasard, on pourrait dire par hasard, à une rencontre au couvent. Et tout de suite, moi, j'ai vu en lui un homme très honnête et un homme plein d'enthousiasme. Ça m'a frappé. Et lorsque nous avons pensé à fonder Radio Salve Regina, je suis la voix de Saint-Antoine, bien sûr, la première personne à laquelle j'ai pensé, c'était Jacques, qui tout de suite a répondu d'une façon formidable, en mettant son temps, ses qualités, ses talents pour l'évangélisation. Il m'a toujours frappé l'empressement qu'il a eu, la fidélité pour faire connaître à tous Jésus-Christ. Celui qui a changé sa vie, qui a donné sens sûrement à sa vie et à sa mort aussi. C'est-à-dire au passage de cette terre au ciel.
Quelles sont, Père Vincent, les qualités humaines que vous retiendrez à travers donc toute l'expérience que vous avez eue, tout le cheminement que vous avez eu avec Jacques?
Écoutez, vous avez dit qualité humaine, ce qui m'a frappé, c'est son humanité. Un homme qui, tout en ayant les pieds bien sur la terre, avait son cœur au ciel, c'est-à-dire en Dieu. Et je crois qu'il regardait tout homme en essayant de voir le visage de Dieu. Dans le récit de Pèlerin Rousse, il est écrit des moines qui est sorti du monastère pour faire une icône de Jésus-Christ en cherchant un visage d'un homme qui lui, d'après lui, pourrait l'aider pour peindre l'icône de Jésus-Christ. En cherchant, c'est-à-dire, dans un homme, le visage de Jésus-Christ. Je crois pour Jacques le contraire. Il essayait de voir en tout homme Jésus-Christ, ou quand même de porter tout homme à Jésus-Christ. Et ça, c'est très humain, mais en même temps très spirituel aussi.
Jacques, donc, était un homme d'action, mais aussi un homme spirituel. Est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous donner sur Jacques, son tempérament, sa fougue, sa joie de vivre aussi?
Nous avons passé 2 heures ensemble pendant des années, parce que moi j'étais à la technique et lui au micro. Et alors, souvent, lorsque nous n'étions pas en direct, on arrêtait les émissions, l'enregistrement pour rire ensemble aussi, parce que on s'est trompé en disant des choses, un peu rigoureuses parfois. On s'est bien amusé aussi. C'est un homme d'amitié, un homme convivial, un homme très sérieux. Toujours, en même temps très sérieux, mais très agréable. C'était très agréable de vivre avec lui. Maintenant, pour penser à des anecdotes, je ne me souviens pas trop, aucun en particulier, mais tout l'ensemble de l'expérience que j'ai eue avec Jacques, je la garde avec moi comme un trésor très grand. J'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai eu la chance, ou même la grâce, de rencontrer Jean-Paul II, de rencontrer Mère Teresa et des saints, sûrement. Mais je garde comme un grand trésor, et je crois, la plus grande expérience humaine, spirituelle, je l'ai eue avec Jacques. Ça, je peux le dire, je le garde toujours dans mon cœur. Souvent, j'ai prié pour lui et je crois avec lui, parce que entre nous, il n'y a qu'une petite séparation, et c'est de notre part. C'est que moi, je ne peux pas le voir, tandis que je suis bien sûr qu'il me voit, et je peux parler avec lui parce qu'il m'entend aussi.
Père Vincent, je vous remercie au nom de Jacques et au nom des auditeurs aussi pour ces témoignages, pour cet hommage rendu à notre ami Jacques.
Et je vous remercie moi aussi à vous tous, et je prends l'occasion pour dire aussi un bonjour à tous les auditeurs de Radio Salve Regina en Corse, et bonne journée à tous. Au revoir.
Merci.
Nous avons entendu le témoignage du Père Vincent. Et ceux qui ont rencontré Jacques, je pense tous, ont été marqués par sa personnalité, par sa foi. Et nombreux seraient aussi les témoignages qui pourraient aujourd'hui être là pour raconter une anecdote ou vraiment disons, une parole qui ont gardé de Jacques. Et nous voulons encore laisser, Michel, la parole à une autre personne qui l'a rencontré.
Oui, en effet, le Père Salvatore, qui était supérieur du couvent Saint-Antoine, a travaillé, a collaboré très très longuement avec Jacques et a vraiment apprécié les qualités humaines de l'homme et le sens de son engagement. Et donc il nous donne aussi son témoignage. Et c'est une façon pour nous de vivre encore, de prolonger quelques moments avec Jacques. Jacques a une longue histoire d'amitié avec la radio et avec le couvent Saint-Antoine. Père Salvatore, vos souvenirs remontent à une époque assez lointaine. Comment avez-vous connu Jacques la première fois?
Mais je ne me souviens pas trop de la première fois, parce que Jacques était quelqu'un qui venait à la messe. Donc je le voyais à Saint-Jean, je le voyais à Notre-Dame de Lourdes, je le voyais ici, là. Il venait quelques fois au couvent. Mais je savais qu'il était un homme d'église, un homme déjà engagé dans la communauté chrétienne, un homme qui avait un travail assez important. À cette époque, il était directeur de l'hôpital. Donc, je me disais, c'est un homme qui a de la valeur, parce que je pensais déjà, en le voyant prier avec beaucoup de ferveur, penser, c'est quelqu'un qui met son emploi dans la foi, donc qui reçoit la force d'en haut pour accomplir aussi les tâches qui sont assez importantes d'un directeur d'hôpital, et surtout quand il y a eu la tragédie de Furiani, je me souviens, ce petit homme, comme vous pouvez dire, il n'était pas de grande taille, mais qui travaillait de manière incroyable au milieu des ambulances, au milieu des hélicoptères, au milieu des blessés, avec un courage et une volonté vraiment de porter l'espérance. Donc c'était le premier impact que j'ai eu avec Jacques dans l'Église, dans les communautés chrétiennes. Et surtout à l'occasion de la tragédie de Furiani, j'ai pu apprécier son sens du travail, de l'engagement dans la vie quotidienne, mais un engagement fondé, plongé dans la foi.
Jacques est aussi l'un des fondateurs de la radio Salve Regina. Est-ce que vous étiez avec lui au début de la radio ?
Oui, et j'étais au début avec lui parce que c'est une créature qui naît à l'intérieur du couvent. Et Jacques était déjà au couvent à cette période, c'est-à-dire à travers le chemin néocatéchuménal. Il a changé un peu dans son attitude d'église parce que c'était, à mon avis, c'était un homme à la recherche. Il n'était pas content de ce qu'il vivait à l'intérieur de lui-même. Il avait quelque chose qui le rôdait un peu. Alors, à travers le chemin néocatéchuménal, je crois qu'il s'est senti épanoui. Jacques a compris qu'il y avait une route que le Seigneur avait tracée pour lui. C'est une route d'un témoignage plus concret dans l'Église, d'un témoignage de tous les jours, mais aussi d'un témoignage qualifié, d'un enseignement qui vient de toute une conversion intérieure. Et donc Jacques, qui fréquentait les communautés néocatéchuménales, avec lui on a commencé à penser, et je crois que sans rien enlever aux engagements des autres, des frères du couvent et aux autres, je crois qu'on peut dire que Jacques a été vraiment le fondateur. Fondateur par son enthousiasme, par sa collaboration dans la préparation du dossier. Il nous a été vraiment très très utile, et surtout dans les premiers temps, Jacques a été le pilier, et pas simplement dans les premiers temps, même dans ces derniers temps, il était le pilier. Et donc je me demande pourquoi le Seigneur nous l'a enlevé. Il était encore assez jeune, vaillant, pourquoi le Seigneur a permis cela. Là il y a une histoire à discerner, mais je crois que le Seigneur a bien fait les choses. Lui, il était comme ça. Il mettait toute sa confiance dans le Seigneur. Donc je crois qu'au moment où il a vu que son moment arrivait, son moment du départ de ce monde arrivait, je crois que lui aussi a dit, Seigneur, si tu me le demandes, c'est pour mon bien. Et donc moi aussi, en les comprenant un tout petit peu, je peux dire, si le Seigneur l'a permis, c'est pour notre bien et pour son bien. Mais certainement, il a été un pilier au moment de la création de la radio, et il l'a été jusqu'au dernier jour. Et il est encore dans les souvenirs, on dirait un peu mieux dans les mémorials. Il est encore le soutien de notre radio.
Père Salvatore, est-ce que vous pouvez nous citer quelques souvenirs, quelques anecdotes qui pourraient définir Jacques, sa personnalité, son enthousiasme, sa joie, sa capacité à entraîner les autres aussi?
Oui, je crois qu'il était enthousiaste dans tout temps. Il était capable de hurler contre quelqu'un et tout de suite d'aller s'agenouiller devant lui pour lui demander pardon. Pardon, non pas parce qu'il avait crié la vérité, parce que peut-être il avait crié mal. Il avait ce sens, il était très très intelligent, Jacques. Donc il comprenait tout de suite quand il faisait quelque chose qui n'allait pas bien, et il avait le courage de revenir en arrière, de la conversion. Et je l'ai vu souvent, il était d'un caractère assez fort, et quelquefois qui s'est engagé dans quelques discussions très animées, et à la fin, il embrasse son, entre guillemets, adversaire, il embrasse la chose la plus importante, c'est de s'aimer. Je crois que c'est l'attitude la plus importante de Jacques. Jacques, à mon avis, avait compris l'évangile dans l'essentiel. Qu'est-ce que c'est le plus important? Que l'autre comprenne ou bien que l'autre se sente aimé? Voilà la question qui revient toujours dans nos relations humaines. Je crois que Jacques avait compris ça. La chose la plus importante, c'est pas la vérité, c'est l'amour. Parce que l'amour est la synthèse de tout, même de la vérité. Et à travers aussi les chemins néo-catéchuménal, il était arrivé vraiment à une étape qui est considérable. L'étape où de tout cœur s'est donné au Seigneur dans la simplicité, dans l'humilité. Et pourtant, il était cultivé, il était un homme des droits, il était un homme engagé dans la vie sociale, un peu moins dans la vie politique, mais dans la vie sociale, oui, avec ses engagements aussi importants qu'il a vécu dans sa carrière. Et pourtant, il s'est présenté avec une familiarité et une simplicité vraiment admirable. Et même les blagues qu'il aimait raconter, après les repas surtout, après les repas, son enthousiasme montait parce qu'il avait le goût de rester avec les autres. Et donc, il commençait avec les blagues, avec les jeux des communautés, avec les jeux des groupes. Et c'était très très beau, c'était un homme agréable en communauté, en groupe, parce qu'il savait assaisonner tous les moments, assaisonner avec la grâce de Dieu et avec aussi cette disponibilité à la joie et la compréhension.
Je vous remercie, Père Salvatore, pour ce beau témoignage, pour ce temps de partage où nous avons pu revivre un peu avec Jacques.
Voilà, merci à vous tous, merci de cette occasion que vous m'avez donnée et de parler de Jacques. Je suis très très content et je ne sais pas si Jacques est content, parce qu'il était modeste dans ce sens-là, mais dans le vrai sens, il était modeste. Mais je crois qu'il ne peut rien faire, parce qu'il peut prier pour nous, et c'est tout. Il ne doit pas, maintenant, se mettre au milieu pour dire ça va pas. Je crois qu'il est content, de voir que nous continuons ce travail qui est très très important dans l'évangélisation.
Nous avons suivi le témoignage du Père Salvatore, très touchant. Aujourd'hui, le Père Salvatore est le Père Provincial pour les Capucins. Et toujours, il m'apporte dans son cœur ces beaux souvenirs vraiment de Jacques. Michel, tu as dernièrement aussi dédié à Jacques un article dans La Voix de Saint-Antoine. Pourrais-tu nous dire encore ton témoignage de la rencontre avec Jacques?
Je voudrais presque dire que Jacques était un homme ordinaire, mais il était profondément homme. Ça, c'est ce que je retiens de lui. Derrière, finalement, tout ce curriculum vitae impressionnant, cette carrière professionnelle, cette réussite sociale, c'était un homme ordinaire, c'était un compagnon de route. Et c'est ce qui m'a marqué, c'est quelqu'un qui était très proche, hein, très proche de chacun. Joyeux au moment des rencontres, des repas qu'on a pu faire ensemble, n'hésitant pas à plaisanter, sérieux dans son travail pour la radio, pour la rédaction du journal La Voix Saint-Antoine, cherchant vraiment Dieu, mais comme un frère, c'est-à-dire au même niveau que les autres. Et surtout quelqu'un qui était un compagnon et qui encourageait, hein, qui encourageait profondément, qui n'hésitait pas à donner des conseils à ceux qui lui demandaient de l'aide. Il avait toujours un avis sage à donner. Et personnellement, en ce qui me concerne, il m'a toujours encouragé. Hein. C'est lui qui me donnait souvent le déclic pour faire quelque chose, pour faire une démarche, pour quitter mes habitudes, pour quitter un petit peu mon petit confort, mon conformisme, etc. C'est toujours lui qui était là et qui était un petit peu l'aiguillon. Hein. Donc voilà un petit peu ce que je retiendrai de lui.
Merci Michel pour ton témoignage et tes paroles aussi. On voit Jacques, un homme enthousiaste, dans les vrais sens du mot, un homme qui est plein de Dieu, donc plein aussi de joie et plein d'encouragement, comme tu nous disais. Michel, encore, je t'invite maintenant à nous présenter encore les deux témoignages qu'on a reçus avant de recevoir les derniers témoignages, je pense les plus précieux aussi. En dernier, nous les gardons. Les deux autres témoignages que nous voulons écouter maintenant.
Deux autres témoignages, celui du père Tarchis et du père Ignatz aussi, qui ont travaillé avec Jacques et qui chacun aussi nous livre une facette de sa personnalité. Merci père Tarchis d'intervenir à l'antenne pour évoquer le souvenir de Jacques qui est toujours présent dans nos cœurs et je sais que vous aviez une grande amitié pour Jacques. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre première rencontre, des premiers pas que vous avez fait avec Jacques?
Oui, je le connaissais déjà avant mon arrivée en Corse, mais c'était une connaissance, j'oserais dire, un peu superficielle. Comme d'autres personnes, je l'avais rencontré, mais je l'ai connu beaucoup mieux à l'occasion, depuis mon arrivée en Corse, c'est-à-dire à partir de l'année 1998.
Hein. Oui, oui.
Donc j'ai passé six ans à Bastia. Et alors, ma fréquentation de Jacques était presque quotidienne. Donc je l'ai connu comme un homme de Dieu, tout d'abord. Et après, comme un homme toujours disponible. Tu sais qu'on a, quand on est étranger, on a des problèmes de langue.
Mmh.
Donc, c'est à côté de lui que j'ai appris beaucoup mieux la langue française. Et je me rappelle aussi la première fois, depuis mon arrivée, que je lui ai demandé son aide pour la correction des textes de la voix.
Mmh.
La petite revue qu'on fait à Saint-Antoine. Et donc, j'avais préparé mon éditorial. Je lui avais présenté le texte pour le corriger. Dans ce texte, je remerciais les Corses rencontrés pour l'accueil. Donc, j'avais mis aussi des expressions très positives sur les Corses et leur accueil.
Oui, oui.
Lui, par contre, en lisant ça, il avait dit, il avait corrigé mon père, vous ne devez pas mettre cette expression. Ce n'est pas vrai que les Corses sont accueillants. Ah. Oh, je suis étonné. Mais voilà un trait de son caractère. Il voulait être dans la vérité.
Ouais.
Pour lui, alors, lui, Corse, n'acceptait pas des éloges qui, à son avis, ne méritaient pas. Donc c'était vraiment un homme transparent, qui aimait la vérité et plus de toute autre chose. Voilà un souvenir que je n'ai jamais oublié. Pour le reste, c'était toujours une histoire de proximité, d'accueil, toujours dans la vérité.
Donc voilà. Un homme, oui, qui aimait la vérité, qui était à la recherche de la vérité. Est-ce qu'il c'était un homme aussi de l'espérance? Est-ce qu'il pratiquait cette vertu chrétienne de l'espérance?
Il ne faut pas diviser une vertu de l'autre.
Oui,
hein,
oui.
Donc, et oui, l'espérance, on le voyait comme toujours comme un homme d'espérance, c'est-à-dire un homme qui désirait surtout que le Seigneur Jésus règne dans la vie quotidienne, la sienne, mais aussi la vie de l'Église en Corse. Donc même sa collaboration à la préparation de la voix, par exemple, il aimait présenter et surtout la vie de l'Église, la vie l'Église qui, tout en ayant des problèmes dans son œuvre d'évangélisation, pourtant il avait toujours, il gardait toujours l'espérance de voir l'Église sans tâche, comme dit saint Paul, et sans je ne me rappelle plus les termes, sans ride, voilà. Donc, un homme qui regardait toujours très loin, en espérant cette fleurissement de l'Église dans l'île, son île.
Donc, un homme qui aimait l'Église, hein, qui aimait l'Église, qui aimait Marie, donc, et qui devait avoir cette dévotion. Est-ce que vous pouvez me parler aussi des derniers moments que vous avez passés avec Jacques?
Les derniers moments,
quand vous avez quitté la Corse.
J'ai quitté la Corse en 2004, donc il y a 3 ans. Je n'ai pas de souvenirs spéciaux, mais je me rappelle que Jacques aimait beaucoup la Vierge Marie et Saint-Antoine. Je me rappelle qu'il était toujours les mardis, par exemple, il était présent à l'occasion de la messe, de la prière à Saint-Antoine. Surtout dernièrement, il ne manquait jamais au mardi et aux fêtes de la Sainte Vierge. Donc c'était une présence discrète. Par exemple, il n'aimait pas se mettre en avant dans l'Église, mais un peu à côté, un peu au milieu de l'Église. Mais pas pour se montrer, mais au contraire, pour se cacher dans le peuple de Dieu. C'était son humilité. Et il n'aimait pas avoir une place importante dans les différents moments de la vie ecclésiale. Donc un homme de foi, un homme d'espérance, un homme qui aimait la Vierge Marie et l'Église en général. Donc un modèle, à mon avis, n'en est pas oublié ou caché. Le modèle chrétien toujours pris par l'esprit.
Je vous remercie, Père Tarchis, d'avoir eu ces paroles vis-à-vis de Jacques, et nous en sommes très touchés, nous-mêmes, qui avons travaillé avec lui à Radio Salve Regina, et certainement tous les auditeurs.
Un grand plaisir.
Merci.
Merci à toi.
Père Ignace, merci de nous rejoindre sur les ondes de Radio Salve Regina. Je sais que vos chemins, les chemins de la vie, se sont croisés avec ceux de Jacques, que vous avez cheminé ensemble, que vous avez eu des échanges, des contacts, vous avez collaboré également, notamment au sein de la Voie de Saint-Antoine. Est-ce que vous pouvez me parler dans vos souvenirs, de vos premiers contacts avec Jacques, vos premières rencontres?
Oui. Alors Jacques, tout d'abord, quand j'ai été là à Saint-Antoine, il a été toujours un de mes plus grands amis. Tout d'abord, il était très gentil, il était aussi un grand chrétien. Il aimait surtout la prière, etc. Et après, j'ai eu besoin de lui parce que j'étais directeur de la voie, et donc je lui posais des questions, je lui ai dit est-ce que tu peux collaborer avec moi. Il a été très très gentil, il m'a dit oui. Il était un homme donc d'une grande disponibilité. à n'importe quelle heure, je pouvais le contacter. Il me disait toujours, oui, j'arrive maintenant. Donc, il a collaboré avec moi pour la voix de Saint-Antoine, mais il a collaboré aussi avec moi pour un journal que je devais traduire de la langue italienne à la langue française.
Oui.
Il a été toujours avec moi. Il était très, très patient et très, très disponible. Donc, quand il nous a quittés, il m'a quitté surtout, et un ami est parti, et je l'ai toujours dans ma prière.
Donc on peut dire qu'il a rendu concrète dans sa vie ce commandement « Viens, suis-moi hein, » de Jésus aux apôtres aussi. Enfin, il a été un petit peu apôtre lui-même, puisqu'il s'est engagé, il a fait des catéchèses
en direction
des adultes.
Je crois pouvoir dire qu'il a bien compris le premier commandement de chaque chrétien, c'est-à-dire « aimer Dieu, mais l'aimer à travers le prochain, donc en aimant le prochain, il aimait Dieu. Voilà, il était très très disponible. C'est ça que je veux dire de Jacques. Et je me souviens de lui comme un homme disponible. Voilà, sa disponibilité m'a toujours touché.
Et est-ce que vous pouvez nous parler aussi des derniers souvenirs lorsque vous avez quitté la Corse? Est-ce que vous avez quelques anecdotes ou quelques images ou paroles qui vous restent de Jacques, donc dans les derniers moments, disons?
Oui, il m'invitait toujours à ne pas être dur avec les autres, mais à avoir patience, à les écouter, à les comprendre, etc., pour pouvoir être ce que je devais être. J'ai été à l'époque curé de Notre-Dame des Victoires, et j'en parlais toujours avec lui, et m'invitait toujours à être patient, à bien comprendre tout le monde, etc., sans juger, mais à être patient. Avec la patience, on pouvait arriver à la sagesse, voilà, à la sagesse qu'il doit avoir à chaque personne, à chaque chrétien.
Je vous remercie, Père Ignace, de nous avoir fait l'amitié d'évoquer Jacques cette antenne.
Un grand ami.
Merci pour tous les,
un grand ami,
de la part de tous les auditeurs de Radio Saverigine.
Oui, merci.
Après les témoignages du Père Tarcisio et Père Ignazio, nous avons voulu laisser un dernier, vraiment comme clôture aussi de ce témoignage sur Jacques, le témoignage d'une personne très proche, qui est Marie-Françoise, sa fille. Nous l'écoutons.
Si je fais aujourd'hui ce témoignage, c'est avant tout pour donner espoir à tous ceux qui ont perdu un être cher. Voilà un an, jour pour jour, que mon père Jacques nous a quittés. Ce départ brutal nous a tous secoués, mais au-delà de cette absence physique, de ce manque, j'ai pu expérimenter ces 12 derniers mois que la vie triomphe sur la mort. En effet, je rends grâce au Seigneur de m'avoir donné un papa comme lui, car il m'a transmis des merveilles. Tout au long de sa vie terrestre, il m'a enseigné, par ses paroles et par ses actes, l'amour du prochain. Il a été un artisan de paix dans son travail, dans sa famille, auprès de ceux qu'il côtoyait, et surtout à travers la radio du couvent. Mais le plus important pour moi, c'est que ce deuil n'a pas mis fin à tout cela. Bien au contraire. Mon père m'accompagne dans ma vie et continue plus que jamais à me guider. J'ai expérimenté en effet des choses merveilleuses. À plusieurs reprises, j'ai été amenée cette année, à ma plus grande surprise, à faire des petites catéchèses à des personnes qui me parlaient de leurs difficultés. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. À ce moment-là, un nouveau souffle venait m'envahir et tout naturellement, j'étais guidée par la présence du Seigneur en employant les mots tels que « réconciliez-vous », « soyez humble », « il faut pardonner ». Cette année 2007 a été marquée par d'autres deuils de personnes de ma famille. Depuis le décès de mon père, j'ai bien compris et expérimenté concrètement que la vie continue après la mort. Avec le Seigneur, nous ne sommes pas démolis ni anéantis par la séparation d'un être cher. Ma mère en est l'exemple personnifié. Quand papa est mort, certaines personnes n'osaient pas aller la voir de peur d'être trop émues et de ne savoir quoi dire. Au contraire, maman les a accueillis et les a encouragés. Et tous les jours, depuis la mort de mon père, elle est un exemple pour sa famille et pour ceux qui l'entourent, car elle nous montre ce que la foi peut apporter. Une force intérieure, une sérénité immense, la garantie d'une assurance vie, sans jeu de mots, contre la mort physique d'un être cher. Mon père de son vivant m'a enseigné aussi le pardon. À ma plus grande surprise, cette année, j'ai expérimenté le vrai pardon. Sans effort, en me remettant au Seigneur, j'ai pu pardonner à des personnes qui m'avaient blessé profondément, par leurs actes ou leurs paroles. Je n'en tire aucunement orgueil, car je sais que cela ne vient pas de moi mais du Seigneur. J'ai pu embrasser ceux ou celles qui m'avaient profondément blessé, sans aucun effort. Merci, papa, de m'avoir fait connaître le Seigneur, et merci pour ce rayonnement d'amour qui se poursuit encore et encore.
Chers auditeurs et auditrices, nous terminons ici cette émission spéciale dédiée à Jacques, à un an de son départ pour le ciel. Vous savez, nous avons voulu faire ce témoignage et aussi cette émission pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli en Jacques et remercier Jacques pour sa disponibilité au plan de Dieu. Lui qui nous a tellement aussi aidé à aimer les saints, lui qui a essayé d'imiter les saints, nous le pensons en cette préparation à la fête de la Toussaint parmi les saints au ciel qui prie pour nous et continue à nous accompagner. Merci Jacques. Michel, encore une parole.
Merci Père Jean pour ce que tu dis sur Jacques. Je crois que Jacques, ce qu'il veut nous laisser finalement, c'est l'espérance et la joie. Je crois que c'est vraiment ce qu'il aurait voulu nous enseigner, il aurait voulu nous en convaincre et je pense que c'est ce qu'il souhaite que nous éprouvions aujourd'hui.
Et pour terminer, je voulais juste rappeler les derniers moments de Jacques. Je me rappelle lorsqu'il avait demandé l'onction des malades. Marie-Lucie lui avait demandé encore s'il voulait nous dire une parole. Les paroles de Jacques étaient, en citant le psaume, « Je bénirai le Seigneur en tout temps ». Je suis certain que maintenant, Jacques, tu bénis le Seigneur tous les temps.
Je bénis Dieu pour tout le bien qu'il m'a fait. Mais aujourd'hui, je veux surtout le bénir pour le don des psaumes. Sans les psaumes, je ne pourrais vivre ma vie avec joie. Je ne pourrais pas entrer en relation avec les autres. Je n'aurai pas de famille au milieu de mes crises, je ne pourrai pas espérer. Dieu seul guérit, mais il est aussi le seul à nous donner le médicament qui guérit. Les psaumes sont une médecine puissante, accessible à tous, et qui ne coûte rien. Dieu a donné dans les psaumes, lorsqu'on les chante ensemble avec d'autres, lorsqu'on les murmure dans la solitude, jour et nuit, un remède à toutes les névroses. Dans les psaumes se retrouve l'homme, chaque homme, avec tous ses désirs, ses problèmes, ses angoisses et ses joies. Les psaumes sont la salive de Jésus. Il n'existe pas au monde une personne si détruite, si mauvaise, si seule et dépravée qui ne puisse guérir en récitant les psaumes, en les répétant, en adhérant de tout son être à ses paroles. Quand bien même serait-elle athée, incrédule, traître, obtuse, cette personne guérira si elle répète ses paroles en se reconnaissant pauvre et dans le besoin, espérant en un Dieu qu'elle ne connaît pas, mais voulant qu'il existât. J'en suis le témoin. Merci, chers amis auditeurs. À bientôt.
Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. Mi ascoltino gli umili e si rallegrino. Benedirò, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. Ascolta.